Je pense m'adresser au nom du CRILC en disant qu'on est fier et heureux d'accueillir aujourd'hui Melika Delmoumen. C'est une personne qu'on apprécie ici au CRILC, même si on ne la connaît pas, mais par son action, notamment pour, avec Cousins de Personnes. Comme on est un centre de recherche en littérature québécoise, quelqu'un qui milite pour la reconnaissance de la littérature québécoise en France, ça fait toujours plaisir. Donc cette causerie, voyez le mot causerie, va être enregistrée par Pierre-Luc Landry, ici même, et sera retransmise en balado-diffusion dans les heures ou jours qui suivent sur les réseaux sociaux, le site internet du Crash entre Flaubert. Chameau va aussi retransmettre l'information. Je vous présente avec grand plaisir Melika Delmoumen, qui est, même si on n'entend pas l'accent, née au Québec.
On n'entend pas l'accent.
Des fois. Mais tu vis en France depuis 2005, donc oui. L'accent est un peu métissé.
Il a toujours été métissé.
Oui.
Il n'a pas changé.
Ah, je ne sais pas, je ne te connaissais pas à l'époque.
Dommage.
Melika est l'auteur de nombreux articles et nouvelles, et de plusieurs romans. On va citer Chair d'assaut, en 99, qui a été prix de la première œuvre du Salon du Livre au Saguenay, de Saguenay. Alia, en 2006, finaliste du prix littéraire des collégiens de Québec. Et Victoria et le Vagabond, en 2008. Tu me dis, hein,
c'est parfait.
Elle a également publié un essai tiré de sa thèse, L'école des lectrices Dubrowski et la dialectique de l'écrivain, aux Presses universitaires de Lyon, en 2011. En 2012, elle cofonde l'association Cousins de Personnes, avec Marie-Noël Blais, de la librairie du Québec à Paris, association qui est dédiée à la promotion de la littérature québécoise en France. 2013 est une année où on a entendu beaucoup parler de Melika, et avec raison. Tout d'abord, en septembre, aux éditions VLB est paru un collectif remarqué, Miroir, dans lequel tu signes une nouvelle. Il y a quelques semaines, elle a aussi publié son sixième roman, Les Désastrés, aussi aux éditions VLB. Et il y a quelques jours, vient de paraître Adèle Élie. On va dire que c'est une novella.
Oui.
Ouais. Aux éditions Émoticourt à Paris. Et ça ne s'arrête pas là. Je mentionnerai le blog de Melika. Que tu tiens depuis plusieurs années. Et en 2013, tu as publié plusieurs billets intitulés « Histoire de Rome », où tu racontes les rencontres et les amitiés avec notamment un couple de Rome, Fabien et Clara. Un couple qui contraste nettement avec les préjugés qu'on a souvent en France. Et rappelons que le débat est d'actualité, puisque la population Rome est souvent dénigrée et continuellement menacée d'expulsion. Avec Melika et le blog « Les Histoires de Rome », la réalité se révèle tout autre. Que ce qu'on entend, et quelques-uns de tes billets ont été d'ailleurs republiés sur Mediapart, qui est une plateforme qu'on connaît et qui est assez influente quand même pour le moment. Donc, merci d'être venu.
Merci. Tu peux continuer, c'est super bon.
Okay, donc, en fait, ce n'est pas une causerie, c'est une conférence, j'ai tout ce qu'il faut. Parler. Donc, je t'ai demandé de venir nous parler un petit peu de ce thème un peu grandiloquent et grandiose et facile finalement à cerner, mais écrire pour soi, écrire pour les autres, parce que au vu de ton parcours, puis à la lecture de tes textes, de tes nouvelles, de tes romans, et de ce que tu fais pour les Roms, pour la littérature québécoise, j'ai vraiment l'impression que tu oscilles toujours entre autofiction, entre le récit pour toi, pour soi, pour tes proches, puis que tu publies depuis quand même quelques années, et aussi un engagement. En littérature, par la littérature. Donc voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu. Écrire pour soi, écrire pour les autres, est-ce que tu penses que c'est une donnée normale en littérature? Est-ce qu'on écrit toujours pour soi et pour les autres? Est-ce que c'est toujours lié ensemble?
Je peux parler de moi, je peux pas parler des
pour
autres,
toi,
mais pour moi, l'engagement, disons ce que tu appelles l'engagement ou le militantisme, c'est assez récent. C'est-à-dire que ça date peut-être d'un an et demi, parce que Cousins de Personnes, on l'a fondé il y a un peu plus qu'un an. Et le blog, ça va faire un an, là, en décembre, que j'ai rencontré les Roms, que je suis allée en visiter le premier campement de Roms que j'ai vu de ma vie. Et puis, ça faisait quand même assez longtemps que j'étais le genre de fille... pour moi, la fiction et l'art ont sa raison d'être sans avoir forcément à être engagée ou à porter un message. C'est pas du tout... je veux pas prétendre détenir quelque vérité que ce soit dans ce sens-là. Donc, moi, j'écrivais sans me poser forcément toutes ces questions-là. Mais j'étais un peu le genre de fille qui avait plein de... qui était révoltée contre plein de trucs, qui... croyait que oui, écrire pour en parler d'une manière fictionnelle ou autre, ça pouvait être utile, mais il y avait comme un truc qui me dérangeait dans le fait que je faisais rien de mon temps, je donnais pas de mon temps ou de mon action pour le faire aussi. Et puis en plus, vraiment, en tout cas en ce qui concerne par exemple les Roms, tant qu'on n'a pas vu et qu'on n'est pas allé faire quelque chose, on peut en parler que de manière théorique, voire choquante. C'est-à-dire que je lis des... Bon, il y a eu beaucoup de reportages en France sur eux parce que le ministre de l'Intérieur a tenu des propos où là, le Québec me manque parce que s'il avait fait ça ici, il aurait perdu son poste le lendemain. Mais bon, on est en France. Et donc, il y a eu des propos où il disait que c'était un peuple qui n'était pas voué à s'intégrer, qui ne pouvait pas comprendre les modes de vie de la France et qui ne souhaitait pas s'adapter. Et donc, ça a fait une sorte de scandale. Et puis, ça les a mis sur la sellette, entre guillemets. Moi, ça faisait longtemps que j'écrivais là-dessus, que je connaissais tout un réseau de gens qui s'y intéressaient, mais ça restait assez confidentiel. Et donc, à partir du moment où c'est devenu un truc médiatique, au début, je me suis dit, c'est génial, ça va enfin sortir du silence, parce qu'il y a 15 000 personnes en France, 15 000 Roms. Il n'y a pas 15 000 Roms en France, il y a 15 000 Roms sans abri. Parce qu'évidemment, il y a des Roms qui ont du travail, des appartements. Au nom de ces 15 000 personnes-là vivent dans des conditions inadmissibles. Et ça, on le sait quand on travaille avec les associations qu'il y a des choses pas tellement légales qui se passent. Et donc je me disais, ça va les mettre sur la sellette. Mais là, ça a donné lieu à des plateaux de télé avec des Français en veston-cravate qui parlaient de « ah oui, c'est pauvre ». Puis c'était mais révoltant. Donc tout ça pour dire que je pense que c'est le militantisme, quand tu veux, en tout cas pour moi, écrire sur ce genre de sujet-là, ça peut pas se faire de manière strictement théorique. Mais là, je suis en train de bifurquer par rapport à ta question.
C'est une question quand même assez
ouverte. Mais oui, elle était quand même un peu... mais donc, c'est ça. Donc, c'est devenu un truc conscient et concret il y a peut-être un an. Mais par exemple, quand j'ai commencé le blog, c'était... je me suis pas dit « je vais écrire un blog et influencer les gens ». Je savais pas du tout si même deux personnes le liraient. Ça a juste été un truc viscéral. Il fallait que je mette des mots sur ce que j'avais vu. Et puis petit à petit, c'est devenu un truc qui me dépasse presque, parce que là, genre, je pense qu'il y a eu 22 000 clics, alors qu'au début, je pense qu'il y en avait 3 000 avant que je commence. Parce que maintenant, j'écris presque seulement là-dessus. Et puis ça, ils en ont parlé à la radio sur Europe 1, puis je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était vraiment viscéral, mais je n'étais pas sûre que ça servait à quelque chose. Mais je me suis dit, je vais... Donc c'était aussi pour moi, tu vois ce que je veux dire, c'est que j'avais besoin, c'était tellement difficile de vivre en sachant ce que je savais maintenant. Là, que... Et puis là, je me suis rendu compte que oui, ça à une échelle assez modeste, ça changeait quand même des choses. J'ai des amis qui étaient plutôt, peut-être pas de droite, là, mais plutôt au centre, qui étaient pas convaincus et qui maintenant, toutes les semaines, vont dans un campement aider ou donner à manger ou aider des personnes à inscrire leurs enfants à l'école. Donc c'est ça. Donc c'est... Les deux vont ensemble, je pense. Et puis, je pense pas qu'avant de faire ça, j'écrivais seulement pour moi, parce que j'avais toujours envie de le partager. Donc, les deux vont ensemble, même quand on fait de l'autofiction. Mais, bon, on en reparlera après, mais l'autofiction et moi, c'est compliqué.
Oui, on va en parler. Puis, c'est aussi sur le blog qu'est né Cousin de Personne.
Oui, oui. Ça, c'était juste avant. Ben, c'est-à-dire que j'ai écrit un billet très...
Ras-le-bol.
Énergique, ras-le-bol. Sur ce que je connais de plus en plus de gens dans le monde de l'édition, soit en France, en province ou à Paris. Puis l'espèce de parisianocentrisme, puis l'espèce de truc, la francophonie avec le vaisseau mère qui est la France, ça me gonflait de plus en plus. Puis un jour, je me suis énervée, donc j'ai écrit un billet de blog qui s'appelait « Cousin de personne ». Parce qu'en plus, c'est « Ah, vous êtes nos petits cousins, mais votre accent, j'en pouvais plus ». Et il y a eu beaucoup de réactions à ce billet-là.
Ah, t'écris quand même, ça sent quand même un peu la poussière chez toi, elle renfermait en parlant de la littérature française.
Ah oui, en parlant de la littérature parisiano-parisienne, d'arrachage de cheveux d'intello qui s'engueule dans un appartement du 6e. Puis qui... Bref. Non, mais c'est que je découvrais aussi, à ce moment-là, c'est un moment où je me suis remise beaucoup à lire des auteurs québécois contemporains. Puis je me suis dit, mais c'est hallucinant... Les gens que je connais, parce que je connais beaucoup de gens qui travaillent soit dans le milieu du livre ou l'enseignement ou la littérature, ils ratent quelque chose, là. Ils se rendent pas compte. Faut les réveiller vite. Et puis ça a commencé parce que j'ai fait découvrir Hubert Aquin et quelques-uns, puis qu'ils en sont jamais revenus. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les faire connaître ici, ces gens-là. Et c'est là-bas. Bon, ça, c'est compliqué. Vous allez voir, je te... toujours... Et donc, j'ai contacté Marie-Noëlle Blais, que je connaissais depuis quelques temps, qui travaille à la Librairie du Québec à Paris. Puis on s'est dit, on fait quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Puis entre-temps, par Facebook, il y avait plein de gens du milieu littéraire d'ici qui disaient, oui, faites-le, faites-le, faites-le. Et donc, on a cherché quelques temps la bonne formule. Et ça, c'est devenu une association, loi 1901, comme on appelle là-bas. Je crois que c'est l'organisme à but non lucratif ici, avec un webzine trimestriel qu'on a lancé et qui continue. Moi, j'ai quitté l'association, j'avais plus le temps, mais ça continue. Il y a une équipe là, qui continue, une équipe qui s'occupe du webzine, une équipe qui organise des événements là-bas et ici. Je pense que là, il va y avoir une grosse fête normalement pour le premier anniversaire. Je sais pas quand, en fait, mais genre, je pense au mois de décembre, donc c'est ça. Donc c'était vraiment... Mais là, je vais continuer. Hein. Là, je fais plus partie de Cousin de Personne, mais j'ai un autre projet de promotion de la littérature québécoise, mais cette fois avec VLB, mon éditeur. On va... Là, ça y est, je peux en parler, parce que c'était pas tout à fait officiel, mais on va faire un magazine papier qui va sortir deux fois par année, qui va faire à peu près 120 à 150 pages, où il y aura une dizaine de textes d'auteurs de pays d'expression francophone différents. Donc il y aura toujours au moins 3 ou 4 Québécois, mais aussi des gens d'Haïti, de Belgique, de France. Et donc le premier de France. Oh, oui, la France est incluse, mais pas plus que les autres, je te préviens. Il n'y aura pas plus de place pour vous. Hein.
Donc la révolution littéraire des cousins de personnes que tu annonçais dans le blog, elle se fait.
Je sais pas si c'est une révolution, mais oui, c'est pas...
C'était tes mots, hein?
Hein, oui, mais c'est, je l'appelais de mes voeux. Hein, je prétendais pas être capable de la faire.
Est-ce que tu penses qu'un an et demi après le...
Oui, il y a que des choses qui ont changé, mais on l'a remarqué. Mais je crois pas que c'est grâce à Cousin de Personne. Hein, mais il y a eu, avec le succès de gens comme Éric Plamondon ou Samuel Archibald, dont les droits ont été rachetés par des éditeurs français... c'est sûr, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, mais en même temps, mon point de vue est super biaisé parce que je m'intéresse à ça tout le temps. Donc, je sais pas, après, quelqu'un qui est extérieur à ce groupe-là de gens en France qui sont soit des expatriés ou des Français qui s'intéressent à la littérature québécoise, s'il y a beaucoup de gens là, qui commencent à être curieux, oui, sûrement quelques-uns, mais faut pas arrêter de travailler, là, c'est ça, tout de suite. Non, puis c'était la difficulté quand on a lancé l'association. On s'était dit, OK, au début, ça va faire un buzz, ça va être le fun. Mais il y a un moment où il faut éviter que ça devienne toujours la même clique de Québécois expatriés ou de Québécois qui viennent en voyage en France et de Français qui tripent sur le Québec et qui se retrouvent tous... Parce qu'il y a vraiment un petit groupe comme ça, tu les vois tout le temps, c'est toujours les mêmes, puis c'est le fun. Mais le but, c'était d'élargir à autre chose qu'eux, donc on va voir.
Est-ce que ça passe aussi par l'institution universitaire? On avait Myriam Suchet.
Il y a Myriam Suchet qui est venue vous rendre visite. Ben oui, elle peut mieux vous répondre que moi, évidemment, mais elle est au Centre d'études québécoises. Mm-hmm. Je pense qu'elle fait un très, très bon travail. Puis elles se connaissent avec Marie-Noëlle et toute la bande là, de Cousins de Personnes. Donc elles font plusieurs activités couplées, là, soit à la Librairie du Québec à Paris ou au Centre d'études québécoises ou à la bibliothèque. Donc ça continue, on lâche pas, mais après... Les effets exacts, c'est pas un pays facile à changer, hein? Le tien.
Non, certainement. Ça, c'est certain. Mais
je l'aime pour ça aussi, dans son espèce d'entêtement. C'est comme à ta chambre.
On va dire ça. Mais dans la continuité de Cousin de Personne, et ouais. Bon, qui aussi questionne les frontières littéraires, mm-hmm. les questions de littérature nationale. Ouais. Toi, de par ton parcours québécoise, qui vit en France, qui a publié un peu des deux côtés de l'Atlantique, tu te définis comment là-dedans? Est-ce que écrivaine québécoise? Est-ce que tu es une écrivaine française?
Oui, québécoise. Je pense que je serai jamais une écrivaine française, même si je voulais, mais je veux pas, de toute façon. Non, mais dans le sens où, tu sais, je pense que tu t'es exilée aussi, tu peux comprendre. Je pense que je resterai toujours une écrivaine québécoise, mais c'était très drôle, justement, parce que je sais plus, je crois que c'est dans la presse où il y avait un entretien avec moi, il y avait la section littérature québécoise, puis moi j'étais dans l'autre.
Tu l'as bien pris?
Je me suis dit, c'est pas OK. Mais donc, je sais pas, je pense que là, pour les autres, je suis dans une catégorie peut-être un peu floue maintenant. Il y a un autre endroit où j'étais marqué que j'étais une écrivaine franco-québécoise. Ah, c'était à Radio-Canada qu'ils ont marqué ça. Donc, moi, pour moi, je suis une écrivaine québécoise, point. Là, c'est pas. Puis je l'ai vu justement là-bas parce que ce roman-là a failli être publié successivement dans deux maisons françaises, puis ça a bloqué à la dernière minute parce que c'était trop québécois. Mm-hmm. C'était trop nord-américain. Le storytelling.
C'est bas, ça.
Non, mais c'est rigole. C'était trop nord-américain. Puis après, je suis arrivée ici, puis il y a quelques éditeurs québécois qui trouvaient que c'était trop français. Et finalement, c'est un Français établi au Québec qui est éditeur chez VLB qui a compris ce que je voulais faire. Donc, c'est comme ça que ça finit par se passer. Mais donc, tu vois, c'est, à un moment donné, faut que j'arrête de me demander ce que les autres me mettent comme étiquette parce que je dormirai plus la nuit. Mm-hmm. Mais moi, je suis québécoise. Peut-être tuniso-québécoise vaguement parce qu'il faut le porter, mon nom de famille, là, mais je connais pas très bien la culture de mon père, il me l'a pas spécialement transmise, mais pas française, non. Je les aime beaucoup, mais je peux pas...
Tu t'es établie en France, mariée avec un Français.
Ouais, mais c'est-à-dire que mon mari est français, mon fils est français, et moi je suis québécoise. Mais en même temps, je suis bien là-bas, hein, puis c'est devenu chez moi, même si à tel point qu'on parle des fois de la possibilité de venir revenir vivre ici, puis que ça serait un déracinement pour moi maintenant. Quoi que je fasse, je suis déracinée de quelque part. C'est fichu, là. Mais en même temps, je suis chez moi partout, mais... donc ça va, mais je reste québécoise, ça c'est...
On va parler de ce roman-là, oui. Les Désastrés, donc, qui est paru il y a quelques semaines. Il y a eu des bonnes critiques, Le Devoir, la presse. D'où c'est venu cette idée de roman
Je lance le...
Est-ce que c'est venu de quelqu'un?
Tu veux qu'on dise le nom?
Ben.
C'est venu quand Nelly Arcan, qui était une amie à moi, s'est suicidée. Que ça m'a mise dans un état... que vous pouvez imaginer, et que la seule manière que j'ai trouvé de... Je sais pas, j'ai même pas cherché une manière, ça a été automatique, il fallait que j'écrive. C'était pas genre écriture cathartique, là, c'était pas ça, j'étais vraiment révoltée contre certaines choses la concernant, puis j'avais envie d'écrire là-dessus. Et je voulais pas faire un roman... parce qu'au début, j'ai essayé la narratrice. C'était la meilleure amie de celle qui s'est suicidée dans le livre. Puis ça fonctionnait pas. C'était trop proche de moi. C'était cliché, en plus. C'était assez ennuyeux. Et puis je me suis dit, je vais le mettre de côté. Mais j'ai envie de parler de certaines choses, là, concernant elle, mais pas seulement. Tu sais, qu'il y a plein d'autres figures paradoxales, en guillemets, ou controversées, comme elle. Et puis aussi, le rapport entre l'art et certains médias. En tout cas, bref, tout ça... Et puis c'est quelques mois après sa mort, il y a eu évidemment tout un tollé médiatique, il y a eu plein de grosses conneries qui ont été dites. Et puis je regardais ça, puis c'était super bizarre parce que c'était comme si je l'imaginais toujours réagir comme si elle était encore là à ce qui se passait après sa mort. Et j'imaginais dire, ah ben, vous allez dire un gros mot là, mais c'est enregistré, mais j'imaginais dire, oh là là, t'sais, même je suis morte, puis ça continue, là, je suis même pas là pour parler, puis ça continue. Et puis c'est de là qu'est venue l'idée d'avoir une narratrice qui parlait d'outre-tombe.
Donc,
ouais.
L'histoire, c'est Nora Jane,
ouais.
Qui est une chanteuse pop internationale,
ouais.
Qui vient
ouais.
de mourir.
Ouais.
Et qui regarde de là où elle est. C'est pas trop
ouais.
Ce qui se passe au niveau
ce
de ses voit, proches,
ouais, qui voit ceux qui lui ont survécu, mais qui choisit pas ce qu'elle voit quand elle voit. Elle ballottée d'un. Elle accompagne une personne, puis une autre. Elle accompagne même son pire ennemi, qui est un journaliste là, qui la déteste. Ben, qui la déteste, un journaliste qui a fait des mauvaises critiques de ses albums. Elle accompagne son amie, une de ses amies qui elle aussi est journaliste, mais qui est plus de l'autre côté de la. Qui est plus dans la fascination et l'adulation et tout ça. Elle retourne dans son propre passé, bref. Mais elle n'a aucun contrôle sur ce qu'elle voit, et donc elle subit les suites de sa mort, comme ça.
Est-ce que certains l'ont lu, déjà, Les Désastrés? C'est à lire, par exemple. Il y a aussi toute une culture musicale qui,
ouais.
qui est là. Enfin,
ouais.
Je perds le nom, Tom Waits, il y a ouais. Lady Gaga qui ouais. revient, il y a Marilyn Monroe qui est
une Lady Gaga centrale. Qui est devenue religieuse, là, presque, qui fait des shows dans des églises. Ben, ça se passe en 2017. Il y a Trent Reznor, bien sûr, The Cure. Non, ben, c'est une chanteuse, c'était une chanteuse qui s'est suicidée, mais j'écris toujours en écoutant beaucoup, beaucoup de musique. Puis là, c'était... Bon, déjà, je voulais faire un hommage à la musique rock depuis très, très longtemps. Je ne trouvais juste pas une façon dont je trouvais qu'elle fonctionnait bien. Et donc là, il y a même eu des moments où, selon la musique que j'étais en train d'écouter, l'histoire évoluait pendant que j'écrivais. Donc, par exemple, le chapitre avec le chanteur de Pearl Jam, j'aurais jamais pensé qu'il y ait un chapitre où il y a des caméos, comme on dit. Et c'était parce que j'étais en train d'écouter cette chanson-là que ces images-là sont venues. Donc, j'ai fait « Ah oui, OK ». J'avais un plan, hein, quand même, à peu près. Je savais à peu près où je m'en allais, mais il y a des détails comme ça qui... Donc, il a été nourri par la musique et puis il rend hommage à la musique en même temps.
Est-ce que c'est une autofiction? Est-ce qu'il y a une part d'autofiction? Comme
mais il y en a toujours. On peut toujours te dire... on peut toujours trouver, dans n'importe quel roman qui s'assume ou pas comme une autofiction ou comme une fiction, n'importe quel écrivain, je pense, va pouvoir te dire « ça, je l'ai vraiment vu » ou « ça m'est... » Là, je serais mieux être comme une tombe au sujet de celui-ci. Mais pour l'instant... Mais oui, il y a des trucs que des gens qui me connaissent bien peuvent reconnaître, là, mais c'était pas vraiment... Puis de toute façon, je me nourris de ce que je vois, de ce que je vis, de ce que je lis, de ce que j'écoute, donc forcément, on peut dire ça. Puis bon, plusieurs personnes ont dit que Nora Jane, c'était Nelly Arcamp, que sa meilleure amie Alice, c'était moi, mais pas du tout. Moi, je suis un petit peu... J'ai des traits de personnalité dans tous les personnages... Puis Nora Jane, c'est beaucoup plus moi que Nelly Arcand. Si j'étais pas civilisée, je ressemblerais à ça. Si je me retenais pas, si j'avais pas de filtre. Donc quand les gens ils me disent, oulala, qu'est-ce qu'elle est détestable, celle-là, mais bon, elle est attachante quand même, je suis comme... Donc, tu vois, donc c'est...
Elle est attachante.
Je sais pas, mais...
D'une certaine manière.
Ouais, bref, donc c'est ça. Donc c'est une fiction, s'il faut catégoriser, mais... Mais j'ai écrit un seul livre dont on pourrait dire que c'est l'autofiction. Moi, c'est Le dégoût du bonheur. On me colle cette étiquette-là parce que j'ai fait une thèse là-dessus. Mais j'ai un seul de mes livres qui est une vraie autofiction. Et puis sinon, c'est ça. C'est, je suis prise avec, là.
Donc, tu es auteur et chercheur quand même sur la
question. Oui, ben, c'est-à-dire que là, c'est fini, là. C'est ben vrai. Non, en fait, parce que je vais peut-être faire un post-doc là-dessus. J'attends la réponse pour ça, mais... Mais disons que ça a été 7 ans de ma vie en tant que chercheur, ben même un peu plus, parce que j'avais fait ma maîtrise sur les mensonges dans l'autobiographie de George Sand. Donc sans m'en douter, je m'engageais déjà sur cette pente glissante. Et donc j'ai fait un roman qui s'appelle Le dégoût du bonheur, qui est vraiment une autofiction, un autre qui s'appelle Alia, où c'est une fiction dans laquelle il y a une auteure d'autofiction. Puis à un moment donné, j'en ai eu assez. De tout ça, j'avais envie d'autre chose. Moi-même, je lis beaucoup d'autres choses. Alors, j'ai lu des grandes autofictions comme des autofictions qui avaient, à mon sens, aucune valeur. Même chose dans le roman, même chose dans le polar. T'sais. Mais c'est juste qu'il se trouve que quand j'étais à l'université, c'était le genre... Moi, je ne sais pas si on peut dire que c'est un genre, mais en tout cas, la catégorie littéraire mal aimée... où c'était systématiquement dénigré au nom d'une lecture un peu référentielle, puis au nom de... Et puis moi, ça, tu me dis ça, puis je me garoche pour aller à la défense du mal-aimé en question. Donc, c'est ce que j'ai fait. Non, puis bon, Dubrovsky, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un auteur majeur, là. Et puis donc, c'est ça.
Tu dis quand même dans tes travaux, dans ta thèse, que l'autofiction est un écueil théorique.
Oui, parce que c'est vrai. Ben, quand j'ai fait ma thèse, il fallait que je fasse au début l'état des lieux. Heureusement, je n'ai pas été obligée de garder ça dans l'essai là, qui est plus divertissant. Mais il y a tout, évidemment le premier chapitre là, où il fallait que je fasse l'état des lieux. Puis c'est étourdissant parce qu'il y a 14 définitions. Ils s'engueulent entre eux depuis 20 ans. Je suis allée dans des colloques à Cerisy-la-Salle où tu as toujours celui qui dit que dès qu'il y a un jeu... Et puis un petit peu de... Et que le narrateur peut ressembler à l'auteur au niveau des noms, même s'il y a du fantastique, c'est de l'autofiction. Puis t'as l'autre qui dit non, 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 donc la Divine Comédie, ça serait de l'autofiction. T'as l'autre qui dit ben, Dubrovsky qui a une définition super fermée. Et puis là, ils s'engueulent entre eux, puis depuis 20 ans, ils disent la même chose. Ils sont chacun convaincus de leur délimitation du genre, et ben, ils s'entendent pas plus qu'avant. Et puis t'en viens à dire, en tant que spécialiste, que ben, il faut, pour travailler, que je choisisse une sorte de cadre, moi, que je délimite mon truc, mais pour pouvoir travailler, puis c'est tout, parce que c'est abyssal, tu sais, c'est des débats, même Philippe Lejeune, l'éditrice des presses universitaires de Lyon, l'a reçu récemment, parce que lui, il travaille sur les journaux intimes d'inconnu là, en ce moment, mais il a été appelé à parler de son pacte autobiographique où il y a une case, vous la connaissez tous, j'imagine, la fameuse case aveugle qui dit que, et que Serge Dubrovski a voulu remplir, c'est quand c'est l'auteur et le narrateur d'un roman peuvent-ils avoir le même nom, et ça ne s'est jamais vu, et là Serge Dubrovski a fait moi, et puis donc il a fait je crois que c'était fils à l'époque, ouais. Et donc il a été, on lui a redemandé de parler de ça, et puis c'est drôle parce que la directrice des presses universitaires de Lyon disait il y a toujours la même hostilité envers l'autofiction, toujours. Donc c'est à un moment donné, moi je me suis dit, si je veux faire quelque chose de ça, il faut que j'arrête, donc que j'arrête de penser. C'est pour ça que je dis, c'est un écueil théorique, il faut que je me donne une... Et ben, je pense que de toute façon, c'est le propre de n'importe quelle thèse ou maîtrise, non ? Il me semble qu'il y a toujours un moment où on fait... Donc, c'est ça.
Mais alors, toi, tu donnerais quel genre de définition, si...
Il fallait vraiment que tu me fasses ça. Hein.
Ouais,
ben, moi, je trouve que celle de Dubrovski est plus... viable pour travailler, c'est-à-dire le nom de l'auteur et le nom du narrateur sont le même dans le métatexte comme dans le texte, c'est assumé que c'est basé sur écrit à partir de faits réels, mais que le fait de le mettre en forme de fictionnalise un peu. Ça, c'est la définition de Dubrovski. Elle est un tout petit peu trop serrée, mais elle est pratique pour travailler. Dans le sens où lui, c'est comment dire, pour lui, en tout cas, en plus Dubrovski a changé d'idée au fil des années, hein. Moi, je le connais bien maintenant, et puis la dernière fois que je l'ai vu, c'était l'autofiction, c'est le nouveau nom qu'on donne à l'autobiographie vu la pensée post-moderne, tout ça. Donc même lui, c'est un écueil théorique pour lui, non je rigole, mais même lui, sa définition évolue au fil des années, donc c'est ça, tu vois, donc je t'ai même pas réussi à te répondre. Tu me mets 0 sur 20. Hein.
Non, je sais pas.
Désolée.
Je sais pas si dans ta conclusion il y a une réponse.
Non. Mais je me souviens plus là, comment l'histoire se termine. Là-dedans, tu veux dire. Mais. Non, il y en a pas. Mais de toute façon, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment le sujet du rapport entre auteur et lecteur dans les livres de Dubrovski. Auteur d'autofiction et lectrice dans les livres de Dubrovski, parce qu'ils ont un rapport. Dialectique, puis que dans ses livres, le narrateur Serge Dubrovski est toujours avec une femme qui est à la fois son lectrice et sa lectrice et son modèle, et puis elles essayent toujours de verrouiller puis de contrôler le texte, et puis c'est comme une sorte de combat entre les deux, puis je trouvais ça super intéressant par rapport à l'autofiction, et en plus parce qu'il a publié Corneille et la dialectique du héros, où il a analysé ça et où lui-même m'avait donné un indice à une époque, parce qu'il m'avait dit que nos lubies de lecteurs en disent toujours beaucoup sur nous en tant qu'auteurs, donc c'est ça. Donc c'est pas vraiment... l'autofiction, je pense que je l'évacue dans l'introduction un petit peu. Là. Mais je me rappelle plus très bien. Il faudrait que je le relise, mais j'ai autre chose
déjà,
à faire.
C'est dépassé ouais, comme thèse 2011.
Je sais pas si c'est dépassé, mais moi je l'ai dépassé en tout cas. Ça, c'est certain.
Est-ce que vous avez des questions pour Mélika
avoir lu, mais vous avez démontré comment la question de la musique qui est centrale, aussi le rapport avec les médias dans les désastres.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on vous trouve de français dans l'écriture qui faisait blocage?
Le style, c'est-à-dire que la narratrice est franco-américaine et pas québécoise, donc déjà, il y a eu ça. Et puis là, je ne saurais pas le dire exactement, mais je pense que c'est le style. Mais c'est, pour moi, c'est un peu... Dans les deux cas, c'était... des commentaires obscurs, parce qu'après, on me disait, comme ça s'est passé, comme ça se passe souvent, VLB a accepté le manuscrit, après, il y a eu un an de travail, vraiment une année de travail sur le texte, donc quand c'était la troisième partie est moins réussie, ou il faut retravailler tel tic, tas, ou tout ça, ça, il n'y avait pas de problème, mais c'est trop français, moi, ça veut rien dire pour moi, en fait. Donc, la seule explication que je trouvais, c'était que la narratrice s'exprime pas en joual, ou qu'il y a aucune, mais il y a aucun québécisme, hein, parce que ça c'est, mais c'était juste, je me souviens, je pense que c'est dans un autre de mes romans, des amis français à moi l'avaient lu, puis avaient dit ça, et c'était un style assez neutre, avaient dit ça se voit que t'es québécoise, il y a telle expression qu'on dirait jamais ici. Et donc, et puis ça, ben on s'en fichait, hein. C'était pas pour me dire c'est pas bien, c'était juste pour me dire on remarque. Et puis là, quand j'ai fait celui-là, je me suis assise justement avec la fille des presses universitaires de Lyon, qui est maintenant une bonne amie. Je lui ai dit là, tu me passes ça au peigne fin, parce que la narratrice est française, franco-américaine. Je pense que ça fait 8 ans et demi que je suis ici, que ça devrait à peu près aller, mais juste vérifie qu'il n'y a pas un truc qui m'a échappé. Puis elle en avait trouvé 2 ou 3, mais je me souviens plus, c'est des petites choses qu'on dit pas là-bas et qu'on dit ici. Donc il y a ça, j'imagine, qui peut être justifié, ce commentaire-là, mais aussi le truc, le storytelling à l'américaine, je sais comme, ben là quoi, parce que ça raconte une histoire. Mais il y avait le fait que c'est, entre guillemets, il y a l'expérimentation formelle, mais ça raconte une histoire avec un suspense, que ça, pour les Français, les éditeurs français avec qui j'ai échangé, c'était comme too much, là, je sais pas, ça... Mais ça, c'était il y a presque 2 ans, 1 an et demi, et les filles même, les deux, parce qu'il y en a 2 avec qui je suis restée en contact, là, qui sont des filles très chouettes, elles, c'est qu'elles dirigeaient une collection, une nouvelle collection un peu expérimentale chez une maison d'édition qui s'appelle Buchet-Chastel, et elles avaient une sorte de pression. Il y en a une des deux qui voulait le publier et l'autre trouvait ça risqué parce que c'était de l'expérimental parisiano-parisien, puis elles étaient sous la loupe tout le temps, elles savaient pas si elles allaient pouvoir garder la collection, donc ça pouvait pas vraiment, c'était risqué à son sens, là, la deuxième. Et puis on en a reparlé depuis, puis elle dit c'est bête parce que depuis, ben, il y a une sorte d'ouverture, parce que Buchet-Chastel a publié Archibald et Plamondon, mais pas dans cette collection-là. Et donc là, elle m'a dit, tu nous le renvoies, là, faut qu'on relise ça. On va voir ce qui va se passer, si ça peut être racheté là-bas, je sais pas. Mais donc, c'est ça, c'était ce que j'avais une super belle conversation avec elle. C'est après ça que j'ai écrit le billet de blog, Cousine Personne. C'est après avoir parlé de ça avec elle, puis après qu'elle, elles m'ont dit qu'elles étaient elles-mêmes prisonnières de ça. Parce qu'elle disait, comment ça se fait qu'on trouve que c'est un ovni, qui a ces deux aspects-là en même temps, alors qu'on dirige une collection consacrée aux ovnis. Mais j'aurais dit, c'est les ovnis parisiens. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. T'avais vraiment... Puis c'est très beau ce qu'elles font. Elles ont une très belle production. J'ai pas lu tous leurs titres, là. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais tu vois vraiment une marque... Mais bon, après, c'est appelé à évoluer. Là, elles ont eu quelques succès. Ben, elles ont eu plusieurs bonnes réceptions critiques, mais là, quelques bons vendeurs. Donc, je pense que peut-être, là, elles vont pouvoir... avoir plus de marge de manœuvre, mais elles-mêmes, elles étaient prises dans ce... Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai pu trouver comme explication pour me consoler, entre guillemets, mais c'est un peu obscur en même temps.
Est-ce que tu peux nous parler de Miroir, le recueil de nouvelles?
Ah oui, oui.
Ce sont 7
Qu'est-ce que tu veux savoir?
Mais moi, j'aimerais t'amener un peu sur mon terrain, là.
D'accord.
Lectrice, miroir, ouais, des femmes, blablabla.
Ouais.
Parler d'écriture des femmes à un moment sur la presse plus.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler du fil commun, en tout cas, de Miroir?
Qu'est-ce qui a été demandé? Ben, c'est les éditions VLB. Ils font un petit peu depuis 1 an à peu près, ils font des petits trucs, entre guillemets, oulipiens, où par exemple, ils ont fait une série qui s'appelle L'Orphéon, où il y avait 5 romans qui se passaient aux 5 étages du même édifice. Les auteurs devaient se rencontrer, ils avaient des consignes, tout ça. Bon, ça, c'était plus du... Comment dire? Ça avait pas de prétention. Roman un peu série B, populaire, puis il y avait 5 genres différents. Il y avait celui que j'ai bien aimé, moi, c'est celui de Stéphane Dompierre Corax, qui était dans le fantastique. Celui de Patrick Senecal était un conte, enfin bref. Et donc, et là, ils en préparent un autre avec 5 romans différents. Mais pour Miroir, ils ont voulu faire un recueil de nouvelles féminin, où il y avait, donc on était 7, et où la consigne de départ, qui moi me paraissait un peu farfelue au début, mais finalement c'était super le fun, c'était, bon, ça se passait dans un grand restaurant montréalais, toutes les nouvelles devaient se passer là, toutes les nouvelles devaient être au jeu, à la première personne, et les toilettes publiques devaient jouer un rôle important dans le texte. Donc bon... Ok. Et donc, après, on a eu des réunions, parce qu'on avait chacune le plan du resto, qui était en fait le bistrot du TNM. C'était l'espèce de modèle. Puis moi, c'était vraiment bizarre, parce que j'étais en France, j'étais pas revenue au Québec depuis 2 ans et demi. Ils m'envoyaient les photos du coin de rue. C'est un endroit où j'avais passé beaucoup de temps quand j'habitais ici. Mais là, tu as des souvenirs qui se télescopent. Je croyais reconnaître un truc, mais après ça, l'éditrice me disait « Mais non, ils ont refait la déco. » J'étais là « Ok. » Donc, on disait à quelle table on était assise. On avait des réunions pour savoir si ça allait se croiser, comment, qui allait. Et puis donc, c'est ça. Moi, ça a donné un truc super bizarre parce que... Donc, je savais que j'allais venir avec ma famille l'été suivant, mais j'étais pas venue depuis 2 ans et demi, puis j'étais dans une période particulièrement nostalgique d'ici. Et je savais qu'après, j'allais venir pour le lancement de soit celui-là, soit Miroir, toute seule, puis donc sans mon petit garçon, toute seule pour la première fois depuis que je suis mère, là, qui est quand même une espèce de contrat spécial dans la vie, là. Et c'est un truc qui m'angoissait de partir une semaine de l'autre côté de l'océan, tout ça. Et donc là, j'ai fait une sorte de projection. J'ai imaginé une narratrice. Là, c'est de l'autofiction carrément. Ben, elle a pas de prénom, la narratrice. C'est assez clair, là. Qui doit venir une semaine pour son travail à Montréal, qui est exilée en France et tout ça. Et qui dit à tout le monde qu'elle arrive telle date et qu'elle arrive toute seule la veille pour essayer de se faire de retrouver sa ville et qui va dans ce restaurant-là et qui boit un verre de trop et qui rencontre son... Est-ce que je dois le dire ou ça va casser le punch? On s'en fiche un peu, hein?
Tu peux le dire.
OK. Non, parce que c'est pas ça le but de la nouvelle, de toute façon. Et donc, elle voit à la table en face son double, en fait, ce qu'elle s'imagine être, elle, si elle s'était pas exilée. Et donc, ça finit dans les toilettes parce que elle, qui est restée, donc qui n'est pas devenue mère de famille, qui n'a pas eu d'enfant, a une sorte de malaise, puis elle court vers les toilettes, et puis l'autre essaie de lui courir après pour comprendre. Donc là, je dirais quand même pas tout, là.
Non.
Je vais m'arrêter là. Et donc, tu voulais me parler, donc c'est ça, Miroir. Et c'est une expérience extrêmement douloureuse. Parce que là, j'affrontais toutes mes peurs, tout le déchirement de l'exil, parce que c'est pas toujours facile, puis que je projetais ce que je viens de vivre dans la dernière semaine, mais qui ne ressemble pas du tout à ce que j'ai écrit dans la nouvelle. Je me suis pas rencontrée nulle part. Ça, c'est correct, c'est le bon problème.
J'aime moins, non,
et puis je suis pas arrivée un jour plus tôt toute seule et tout ça, mais c'était comme, c'est pas une espèce de manière d'exorciser par prévention. Voilà, c'est ça. Et donc, non, puis on a même fait des blagues avec mon éditeur, parce que quand je suis arrivée, il m'a dit « Alors, tu t'ennuies pas trop de ton fils ?» Puis je dis « Ah, je sais pas, là, ça fait 12 heures que je suis là, je m'inquiète un peu. » Il dit « Non, mais t'as déjà tout vécu ça dans le Miroir, là, maintenant tu peux juste être en voyage. » Puis donc, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Puis c'était juste spontanément autofictionnel, parce que j'en avais envie, puis que la consigne le permettait, puis que... Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de l'exil, mais que je voulais pas en parler de manière, comment dire, ronflante, prétentieuse, ou je sais pas comment expliquer, là, ou trop sérieuse, ou... parce que c'est vraiment très douloureux par moments, donc de faire ça de cette manière-là, c'était plus facile. C'est ça. Et puis, ben, les autres filles, ben, je sais pas si toi, t'as lu l'ensemble du...
J'en ai lu 3.
T'en as lu 3? Ben, t'as plein de trucs. Là. Ouais, t'es gentil. Mais les autres auteurs, ben, il y a India Desjardins, Jennifer Tremblay, Caroline Allard, Claudia Larochelle, Daniel Fournier, et j'en oublie une. Ça, c'est mal. Je sais pas, il y en a une 7e, j'ai vraiment un truc.
On cherchera.
Ok.
Non, la question des femmes en littérature, justement.
Oui, alors, un autre écueil théorique.
Ah, on est d'accord là-dessus, mais justement, comment tu te situes par rapport à cette idée d'écriture des femmes, écriture féminine, qu'on appelle souvent, et qui revient un peu, j'ai l'impression, à la mode avec. Bon, du côté universitaire, on se repose la question.
Ouais.
Miroir aussi questionne ça.
Ouais.
On en a parlé dans les journaux. On repose encore la question d'une spécificité des femmes dans la littérature. Comment tu te situes,
ben,
toi?
On en a déjà parlé un peu. J'ai une position mitigée dans la mesure où je peux pas croire que par nature on écrive différemment, mais je peux pas croire non plus que l'histoire et la société dans laquelle on vit a pas fait qu'on a pris certaines caractéristiques en tant que femme ou en tant qu'homme, mais en même temps, comme pour n'importe quelle personne qui s'assoit devant son écran ou sa feuille, il est traversé par son histoire à lui, sa géographie à lui, donc j'ai du mal à y répondre. Puis c'est drôle parce que ça me ramène à ce que je faisais avant de faire des trucs sur l'autofiction, quand je travaillais sur George Sand. j'ai de la difficulté à avoir une position tranchée là-dessus. Par contre, ce que je sais, je me souviens, bah, tu parlais de l'article dans la presse, c'est parce qu'il y avait eu les déclarations de Gilmore. C'est ça. Où là, ben oui, ça m'avait gêné. J'avais trouvé ça plus ridicule qu'autre chose. Là. Ça m'a pas empêché de dormir. Puis c'est pas tellement nouveau. Ça a changé, mais pas tant que ça, ce préjugé-là. Mais non, je pense que personnellement, je peux pas dire que je suis convaincue que le fait d'être une femme détermine ta manière d'écrire biologiquement. Socialement, peut-être. Mais ça peut pas être que ça. Tu sais, je pense que c'est un mélange de. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis, mais. Après ça, faudrait vous demander à des écrivains, peut-être. Alors,
pour une femme qui fait des autofictions, on dit souvent que les femmes n'écrivent que sur elles-mêmes et que sur leur intime. Mais
oui, yada, yada, yada.
Tu prouves un peu ça, non ?
Hein ?
Tu prouves un peu...
Que j'écris que sur moi-même ? Non, c'est bien que je n'écris que sur toi. Non, mais... Sérieusement. Non, mais Nora Jane, justement, dans la série, Nora Jane dit tous les trucs que j'oserais peut-être pas dire de manière aussi brutale. Il y a une page où elle dit que... Ah, mais là, je me souviens plus c'est à quelle page. Je pourrais pas le retrouver la citation, mais où elle dit que quand une femme parle d'elle... Oh, attends, il faut que je le cherche. Zut, j'aurais dû... Ben, que quand un homme parle de lui, il fait basculer le particulier dans l'universel, que quand c'est une femme, elle est narcissique. Mais je sais pas si je vais retrouver la page.
Je me souviens.
Tu te souviens, mais eux, ils savent pas. Et c'est pas bon, c'est pas grave, là, mais c'est à peu près ça, donc c'est ça que je pense. Souvent. Ben, ça m'est arrivé, même moi, à la radio, d'aller dans une émission en France, sur France Inter. Le gars avait pas aimé mon livre, ce qui est son droit le plus strict. Puis en face, donc, mais moi, c'était une fiction qui était une sorte de fable théorico-fictionnelle sur l'autofiction, disons. Donc après, je peux très bien comprendre qu'on peut trouver ça d'un ennui total. Et en face de moi, il y avait un gars qui avait écrit, un Français, homme, qui avait écrit l'autofiction de sa dernière rupture... et de sa dernière rupture amoureuse. Et donc, l'animateur commence par moi, puis commence par me dire qu'on lui a pas trippé, ok. Bon, déjà, on se sent un peu comme ça, mais bon. Et là, il me dit, mais vous pensez pas qu'en racontant votre vie, vous allez ennuyer les gens? Et là, je me retrouve à devoir lui expliquer que c'est pas parce qu'il y a un jeu que c'est moi, qu'en plus la fille porte pas mon nom, que... Oui, mais vos parents, quand ils vous ont fait un procès... Non, mes parents m'ont jamais fait un procès, c'est une histoire.
Là, c'est par rapport à Alia.
Ouais, par rapport à Alia, qui a vraiment pas plu à tout le monde, puis je comprends très bien pourquoi, mais là, c'était pas ça la question. T'sais. Là, il se retourne vers l'autre, et il lui dit, votre livre est génial, je l'ai adoré, c'est universel, on dirait que ça parlait de moi. Et donc là c'était bon, ça dit tout. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Il reste encore de ça, malheureusement, beaucoup.
S'il n'y a pas de questions,
Ouais. Moi, je pourrais peut-être intervenir. J'aimerais peut-être entendre parler d'Adèle Ellie.
Parce que
c'est très spécial. Hein.
Ouais.
C'est weird. De ta
tu trouves? Je sais pas.
D'une certaine manière, dans le ton.
Ouais. Dans... c'était, entre guillemets, pas une commande, mais c'est une petite maison d'édition pardon, qui est à Paris, qui s'appelle Emoticourt. Ils existent depuis 2 ans et normalement, c'est une maison d'édition numérique. Donc, ils font strictement des textes de 70 pages et moins, qui sont forcément des inédits, et c'est publié donc en e-pub ou en PDF, tout ça. Et une ou deux fois par année, ils font une version papier aussi. Donc moi, j'ai eu la chance de faire partie des deux versions papier de l'année en plus. Et ils ont eu autant des gens qui ont eu des prix Goncourt que des inconnus, que des Belges, que des Français, que Belges, leur première Québécoise. Et donc, j'avais rencontré la directrice de cette maison d'édition-là dans un colloque. Puis elle était venue voir, puis elle m'avait dit « Vous n'avez pas envie de me soumettre quelque chose, ça me ferait super plaisir. » Et puis là, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et puis là, elle m'a dit « Ben là, c'est le temps de vous lâcher, là, si vous pouvez faire n'importe quoi. » Et donc, je lui ai dit « Mais j'ai comme une histoire là, sur laquelle je travaille depuis des années. Je n'ai jamais trop su quoi en faire, parce que ça ne peut pas faire un roman. C'est trop long pour être une nouvelle. C'est trop littéraire pour être un film. » Puis je dis « C'est comme un genre de... » On appelle ça un anneau noir avec elle. C'est comme un mini-roman noir cinématographico, je sais pas quoi. C'est difficile à décrire. Et toi, tu le connais en plus. Peut-être tu pourrais mieux le décrire que moi. Donc, ça a été super le fun parce que j'étais en train de finir le retravail sur Les Désastrés. Puis ça, c'était comme ma bouffée d'air frais, parce que là, c'était juste liberté totale. Donc, j'ai fini par faire une première version que je leur ai envoyée, en sachant vraiment pas... Parce que c'est un peu bizarre aussi comme texte, je pense. Et puis, elles ont aimé ça, et puis...
Il y a beaucoup de Nabokov. Ouais. Hein,
mais tout le monde me dit ça. Oui, moi, de toute façon, Nabokov, parce que y a eu, c'est drôle, parce qu'il y a eu un article là-bas d'un gars qui est convaincu que le seul but de ce texte-là, c'était que je voulais faire la nouvelle Lolita. Ce qui est vraiment... Ben, je l'ai lu, Lolita, mais moi, c'est Feu pâle que j'aime de Nabokov. C'est pas Lolita, déjà. Et puis donc, il faisait toute une analyse en disant que c'était bien, mais que ça manquait de sexe, puis tout ça. Et c'était très drôle, parce que les deux filles m'envoient le texte du monsieur, et puis je dis, c'est drôle. Puis c'est là que tu te rends compte que quand tu publies un texte, ça t'échappe complètement. Puis après, sa lecture est peut-être très juste, mais moi, c'était vraiment pas mon intention. Mais on riait, parce qu'on se disait, dans le fond, parce qu'il y a une histoire d'amour entre un prof et une élève beaucoup plus jeune que lui, mais ça se passe à un âge légal, en guillemets, le truc. C'est-à-dire qu'ils se connaissent très jeunes, mais ça s'est consommé plus tard, disons. Et donc, lui, il me reprochait ça. Il disait que j'étais trop prude parce que j'attendais qu'il soit à un âge raisonnable pour consommer, puis que c'est tellement mieux dans Lolita. Je dis, mais bien sûr que c'est mieux dans Lolita, là. Je ne suis pas Nabokov. C'est sûr. Mais bref, donc oui, il y a quelque chose de ça, mais pas seulement. Il y a comme quelque chose de... Dans mes, je sais pas, les trucs qui m'ont porté quand j'écrivais, il y a David Lynch, il y a une chanson d'Eminem, il y a un mélange de trucs. Donc après, c'est ça. On peut, lui, je pense qu'il devait avoir raison de voir ça, le monsieur, mais j'ai pas fait exprès.
Bon, tu t'orientes de plus en plus vers le polar maintenant.
J'ai commencé par ça dans Chair d'Assaut, c'était un polar. C'est après que j'ai... Je me rappelle pas exactement pourquoi là, j'ai bifurqué vers autre chose, pour plein de raisons, mais ben, c'est comme mes premières amours. Là. C'est sûr, les premières nouvelles que j'ai écrites quand j'étais petite, c'était des histoires d'enquête policière, quand j'en ai relu quelques-unes, c'était tellement drôle. Donc c'était pas fort. Mais c'était déjà ça à 12 ans, là. C'était des trucs d'enquête. Mais tout ça parce que c'était un pari qui m'avait été lancé par des filles à l'école qui... J'étais le mouton noir, ou j'étais comme le rejet là, à l'école. Et puis elle voulait me faire une blague parce que j'étais la nerd, je lisais tout le temps. Puis elle m'avait dit, nous on fait un club littéraire et puis on doit chacune écrire une nouvelle policière dans laquelle il y a, parce qu'elle me voyait toujours lire Agatha Christie, tel élément. Et puis il faut qu'on ait fait ça pour dans 2 jours, puis on se rencontre. Et puis on signe nos trucs, puis vraiment elles l'ont pas fait, c'était une joke. Elle m'avait donné un truc impossible, genre avec 4 cheveux, 3 je sais pas quoi. Puis moi j'avais fait une nouvelle policière avec ça, puis j'étais arrivée. Et là, je m'étais rendu compte que c'était une joke. Mais finalement, elles avaient trouvé que c'était bien. La nouvelle.
Ouais. Finalement. Et ouais. Alors, entre le
Donc polar... ça a commencé comme ça, en fait.
Et entre le polar et Alia, le dégoût du bonheur, Lynette Spa, c'est quoi, par exemple?
Hein?
Lynette Spa.
Robinette Spa. Ah non, mais ça, fallait que tu le mettes sur le tapis. Hein, oui, celui-là. Tu sais en plus que j'aime pas en parler. Oh.
C'est un accident de parcours?
Ben oui, c'est un gros accident. C'est des fois accident que j'ai perdu beaucoup de plumes. Non, c'était une commande de mon éditeur de l'époque qui s'appelait Emmanuel Aquin, qui avait démarré une collection. C'est l'éditeur s'appelait Point de Fuite et qui s'appelait Le Point G. Et où c'était des romans érotico-humoristiques. Et donc, il voulait absolument que je lui en fasse un. Donc, j'ai fait une sorte de fable futuristo-féministo... Je sais pas quoi.
Érotique.
Ouais, à peine. Hein. J'ai vraiment eu de la difficulté. Puis, il y a 2 scènes qui pourraient porter cette étiquette qui sont complètement ratées parce que j'étais trop mal à l'aise en les écrivant. Et puis, c'est... Voilà, c'est pas... J'oublie toujours qu'il existe. Mais donc, c'était
d'ailleurs,
une commande.
Les bibliothèques c'était une commande. Ont oublié aussi.
Ouais, mais c'est préférable. C'est préférable. Mais il y a une fois où j'ai dû tout relire parce que je devais faire une communication dans un colloque sur l'autofiction dans mon parcours. Puis là où je m'étais dit, je vais mettre ça au clair. Là. Ça suffit. Ça s'appelle genre Ma meilleure ennemie ou je sais plus quoi. Là. Ça va être publié justement aux Presses universitaires de Lyon, je pense. Et donc j'avais tout relu pour essayer de faire. Il fallait que je fasse comme un genre de bilan. C'est pas facile. Hein. Du début à la fin, j'ai tout relu. C'est pas évident. Puis le seul que tu trouves potable, c'est celui que personne veut publier, tu sais. C'était celui-là. C'était le seul. Ben c'est sûr, c'est toujours ton dernier, tu sais, que tu préfères. C'est normal. Mmh. Donc ça avait pas été facile. Et donc je m'étais retapée. Je pense que je l'avais pas fini, en fait. Lima Destroy, j'avais pas terminé.
Tu t'étais arrêté à la première scène érotique, c'est ça?
Je me souviens plus, mais c'était quoi? J'étais pas à l'aise.
Ben merci, Médica.
Ben merci à toi, merci à vous d'être venu malgré le temps catastrophique.
Oui. Les plus rayés sont là.
Oui, c'est ça.
Merci.
Merci à vous.
Et merci à Annie au CRIC.
Oui, merci au CRIC. C'était vraiment gentil. Très flatté d'avoir été reçue chez vous.